Bonjour.
Bonsoir Laurence Villaine. Bienvenue à la bibliothèque de Cucuron, donc qui nous reçoit dans le cadre des propositions littéraires des nouvelles hybrides. Et bonjour à toutes et à tous. Laurence Villaine, vous avez grandi à Nantes et fait des études de langue. Vous avez vécu où ça parlait d'autres langues, dites-vous. Et vous vivez aujourd'hui dans la région. Vous avez changé de région et vous êtes maintenant proche de nous. Vous avez à ce jour signé 3 livres dont nous allons parler. Vous contribuez également à la revue annuelle Apulée, publiée par les éditions Zulma et dirigée par l'auteur Hubert Haddad. Vous conduisez des ateliers d'écriture, des projets collectifs qui mènent l'écriture et d'autres langages artistiques. Et vous avez été accueilli en résidence à diverses reprises, et notamment en ce moment avec les nouvelles hybrides. Alors, dans le temps qui nous est imparti, nous allons parler de vos 3 livres. Si nous en avons le temps, de vos activités annexes, même si je suis sûre qu'elles ne le sont pas tout à fait, puisque voilà, tout se nourrit, et peut-être de vos projets, puisque si j'ai bien compté, vous publiez un livre tous les 4 ou 5 ans, donc normalement, on devrait être dans le bon timing pour avoir un prochain opus bientôt. Donc je vais essayer, en guise d'introduction, le plus rapide possible, de vous présenter vos 3 livres. Le premier, paru aux éditions Gaïa en 2011, est « Le silence ne sera qu'un souvenir ». Pour poser le livre, alors, sur la rive slovaque du Danube vit une communauté rome, dans la misère et des conditions très dures, une communauté de tout temps humiliée, chassée, persécutée, dont on découvre ici l'art du vivre ensemble, la dignité, la compassion, la fraternité, mais pas que, et la place essentielle, par exemple, qu'occupe la musique. Là vont naître des drames et une histoire d'amour magnifique. Et une fois le cadre posé au tout début du livre, l'histoire s'ouvre sur le tableau d'un garçon qui serre contre lui un violon à l'écart des autres. Et il est seul, il est moqué, et pour finir, il sera battu par un groupe d'enfants. Dino, ce garçon, est blond, autant dire que dans une communauté rome, il n'est pas des leurs. C'est une marque importante. Et c'est le vieux Miklos qui va raconter son histoire et révéler peu à peu les mystères dont il a été le témoin. Et je précise tout de suite que Miklos est mort depuis 16 ans quand il raconte cette histoire. C'est donc d'outre-tombe que nous vient ce récit, et qu'il livre enfin un récit poignant sur ses destinées, et on comprendra au fil du récit pourquoi il n'a pas pu le faire avant. Ensuite vient La Grande Villa, publiée également aux éditions Gaïa en 2018. Et dans La Grande Villa, on rencontre une narratrice qui, à la faveur d'une résidence dans une grande maison qu'elle occupe seule, fait ressurgir la figure du père, décédé depuis peu, et interroge son écriture, et en particulier sa panne d'écriture. Cette narratrice, c'est vous. Et La Grande Villa, cette maison, devient un personnage enveloppant, réconfortant, une amie. Et enfin, le dernier opus, à ce jour, La Géante, paru cette fois aux éditions Zulma en 2020. Donc voilà, bientôt 2025, c'est le bon calendrier. Alors, dans un hameau au pied d'une montagne, 4 personnages se croisent. Noël est arrivée là à l'âge de 7 ans et n'en a plus bougé. Elle a été recueillie par la tante, dont on apprendra que l'appeler ainsi était sa couverture de survie. Rimbaud, son frère, qui n'a jamais parlé, qui dort le jour et arpente les montagnes la nuit à la recherche de l'or des fous, ces petites pierres qui brillent. Il y a aussi Maxime, qui est un journaliste, qui se réfugie dans ce hameau, pour soigner, il est atteint d'une maladie, donc il vient se cacher ici. Et puis il y a Carmen, qui l'aime, lui écrit et cherche à savoir où il se cache. Et puis, bien sûr, il y a un cinquième personnage important, omniprésent, c'est la géante. Et la géante, c'est la montagne à côté de ce village, de ce hameau, et qui est au cœur du roman, telle une alliée, un défi, un révélateur, selon les personnages. Alors, je vous propose de zoomer un peu sur ces histoires. Et en premier lieu, j'aimerais bien que nous parlions de l'empreinte historique, directe ou indirecte, que l'on trouve, qui transparaît dans vos livres, avec dans Le Silence, je vais l'appeler Le Silence pour raccourcir cette histoire du peuple rome qui est tragique, avec la chute du mur qui intervient comme un pivot dans l'histoire, et puis avec cette fois la géante, on a aussi des échos du monde contemporain, beaucoup plus contemporain, à travers les lettres que Carmen envoie. Comment avez-vous tissé cela, ces histoires, cette histoire dans les histoires?
Merci en tout cas déjà de cette présentation globale qui dresse un panorama. Ça fait du bien de l'entendre aussi pour ça remettre toutes les choses en place de manière très clairvoyante. Comment j'ai tissé ces histoires? La petite histoire dans la grande, c'est un peu ça? C'est l'empreinte historique ou la grande histoire dans les petites plutôt, enfin dans les deux sens.
Dans les deux sens.
Comment je vais répondre à ça? Ça ne se fait pas, je ne décide pas de le faire au début en fait. Je ne me dis pas, la chute du mur, j'aimerais bien en parler, je vais essayer de trouver une histoire pour la faire rentrer dans l'histoire. Je ne me dis pas, les catastrophes qui se passent au Congo, les jeunes filles qui sont violées parce qu'elles habitent dans une région où on pousse les Congolais, enfin bref, toute cette histoire, je ne me dis pas, ça c'est important, je veux en parler. Quand je commence une histoire, je parle pas du très grand, je parle de la grande histoire, mais je pars plutôt du tout petit. Le tout petit, ça va être une scène toute simple, une scène du quotidien. Ça va être un enfant qui joue du violon sur le bord de l'eau. Tout simple. Au début, c'est juste de l'eau, sur un ponton. Il joue, il est tout seul, il y a des enfants qui jouent autour, qui font les fous, qui sont fougueux, qui sont torse nus, qui vivent... sont dans l'insouciance de leur enfance. Et lui, il est tout seul dans un coin. Et comme vous tout à l'heure, je crois que je zoome sur cet enfant-là. Et cet enfant-là, ben, je fais un petit peu en accéléré, là. Mais cet enfant-là, il n'est pas comme les autres. En effet, il est blond. Il a un violon. Donc, ça veut dire qu'a priori, il joue de la musique tout seul dans son coin. Mais plus que ça, si je zoome encore, il joue du violon, mais son archet ne touche pas les cordes. Ça veut dire qu'il joue de la musique dans sa tête, en fait. Donc, en fait, ça part vraiment d'un petit détail, de cet enfant qui a un archet, mais son archet ne touche pas les cordes. Et en fait, par exemple, pour cette histoire, je me suis retrouvée sur les bords de l'eau, on va dire, qui, au fur et à mesure que j'avance dans cette histoire, se trouve être un fleuve et qui, finalement, va s'appeler le Danube. Et donc, comme je suis sur les bords du Danube et que cet enfant fait partie d'un peuple qui joue, là, ce sont des Roms. Donc, je remonte le fil. Si je suis avec les Roms, pourquoi j'y suis, ça, j'en sais rien. Mais j'accepte d'y être et je suis contente d'y être, en fait. C'est sans doute pas un hasard si j'y suis. Mais je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Et donc, j'ai des idées sur les Roms, j'ai des images, j'ai des clichés, comme on a tous. J'ai vu des films, j'ai lu des bouquins, j'ai de la musique. Et finalement, je me dis, bah ouais, mais si je m'embarque là-dedans, faut que je fasse attention, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai pas envie de rester avec les clichés des roulottes et des robes à volant et de la musique. Donc je me nourris en fait de lectures qui vont être là plus documentaires. Et c'est là que la grande histoire, je pense, elle rentre dedans, parce qu'en lisant, je vais apprendre des choses. Je vais par exemple apprendre que que, alors aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai arrêté mes recherches sur les Roms, mais il y a encore 15 ans, on stérilisait les femmes roms en Europe de l'Est pour ne plus qu'elles fassent d'enfants. On le faisait à leur insu, on faisait de force, on leur promettait de l'argent en échange, une allocation contre cette opération. Quand je lis ça, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, comme je suis à raconter une petite histoire avec les Roms, forcément, j'ai envie de faire entrer cette information-là. Donc, de l'histoire avec un grand H rentre petit à petit dans la petite.
Ça participe de l'incarnation des personnages.
Oui, ouais, c'est ça. Ça veut dire que, voilà, en remontant le fil de la petite histoire, je vais dans l'histoire de ceux d'avant. Ça, c'est encore un autre sujet, mais forcément, je rentre dans le passé, et qui dit passé dit histoire, tout simplement.
Et avec dans la notion de frontière, elle est intimement liée à cette empreinte historique, avec par exemple le Danube, avec la ville et l'extérieur des villes où on a parqué les Roms, avec les Roms et les Gadjés, c'est-à-dire les non-Roms, les bruns, les blonds, la montagne, la ville, tout ça sont des frontières très très marquantes. Et même pour la grande villa, il y a un peu la grande villa et le reste du monde. Est-ce que pour vous c'est un élément essentiel de la narration? Est-ce que ça pose une intention politique?
Même chose, au départ, non. Oh, je pense que, enfin, je suis sûre, au départ, il n'y a. Je n'ai aucune intention. C'est-à-dire que j'aimerais en avoir. Peut-être que si j'en avais, ça m'aiderait des fois à écrire. Mais voilà, je ne me dis pas, je veux parler des frontières, je veux parler de l'immigration, je veux parler de plein de sujets qui me touchent profondément. Mais je ne me dis pas, tiens, je vais écrire un livre sur un roman qui va traiter de la frontière et du racisme, enfin voilà, de grands sujets généraux. Ça je suis incapable de faire ça, je ne sais pas faire. Mais ça se fait, ça rentre dedans. Et alors c'est vrai que le premier, la frontière est assez flagrante avec le fleuve qui fait une frontière entre les Roms d'un côté, les Gadjés de l'autre, la chute du mur qui est en fait, ça se passe, c'est contemporain, c'était en 2011, vous avez dit, donc ça fait un petit moment, mais c'était pas loin de l'anniversaire de la chute du mur, 89, voilà, enfin bon, en tout cas c'est situé à un moment d'anniversaire de la chute du mur.
C'est un point pivot.
C'est vrai que c'est venu.
Il y a ce qui se passe avant et ce qui se passe après.
Ouais. Mais c'est pareil, la chute du mur, c'était pas le point de départ. C'est après, en fait, je pense que l'écriture, elle se fait un petit peu à mon insu. C'est-à-dire que les sujets, j'aime pas ça, ou les thèmes, comme on dit, ils se dégagent après coup. Pour ce premier, en plus, c'était le premier roman, donc j'étais très naïve. J'écris un livre, ça, voilà, il se construit, il se fait, il est publié, et tout de suite les rencontres étaient orientées sur les Roms, sur le roman engagé. Et moi je tombais des nues en fait, parce que je comprends que les libraires, les bibliothécaires, on a besoin de ranger parfois les livres dans des cases, les bases de données des libraires, etc. Et pour moi, je l'ai découvert après coup en fait.
C'est souvent les lecteurs qui font découvrir des choses.
Complètement.
Aux auteurs.
Ça nous renvoie des choses qu'on ne voit pas quand on les écrit.
Et alors, tout ce dont on vient de parler marque une géographie des lieux qui sont changeants au fil de l'histoire, bien sûr, et qui ancrent fortement les personnages dans des territoires. Et ces territoires sont plus ou moins nommés, explicitement. Ça dépend des livres. Mais on les reconnaît, quand même. Pour la Grande Villa, on va quand même reconnaître Marseille, même si Marseille n'est jamais citée, je crois, il me semble. Pour la Géante, on va reconnaître la frontière, France-Italie, la vallée de la Roya, etc. Mais c'est pareil, ça n'est jamais cité. Et voilà, c'est quoi votre intention de ce petit mystère que vous laissez?
C'est pas pour laisser un mystère, c'est pour me préserver une liberté. et dans le premier aussi, je dis pas, ça se passe dans ma tête, ça se passe en Slovaquie. c'est jamais nommé, c'est juste, je me trahis en fait, ou l'histoire me trahit parce qu'il y a du slovaque de temps en temps, il y a un petit indice slovaque de temps en temps, et puis dans les autres, pareil, il y a des indices, je vais parler du marché de Noailles à Marseille, donc ceux qui connaîtront Marseille vont pouvoir l'identifier. Mais je crois que c'est tout simplement pour me laisser une liberté, pour pas que... Si vous disiez, par exemple, la géante, c'était dans ce village-là, donc après, je vais me sentir obligée de tourner à droite, là où il faut, alors que moi, j'ai envie d'aller à gauche, mais de dire que ce petit village, il s'appelle comme ça quand même, mais on s'en fiche, en fait. Et c'est vrai que dans la géante, j'ai gardé... Ça se passe, en effet, dans le Mercantour, dans la vallée de la Roya, et y a des noms que j'ai gardés.
Oui.
La rivière, par exemple, la Bendola.
La Bendola, c'est ce qui m'a mis sur la voie.
C'est vrai. Bravo. Et la Bendola, je me suis dit, mais pourquoi je vais changer ce nom alors qu'il est tellement beau ? Pour moi, c'est un ruisseau qui coule, on l'entend chanter quand on dit Bendola. Donc, je me dis, mais l'avantage de la fiction, du roman, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, en fait. On peut tromper le lecteur, l'appeler Bendola, même si on peut le situer en Autriche, si on veut écrire un roman en Autriche et l'appeler la Bendola, peu importe. C'est la simple raison, c'est pour être libre.
Ok, merci. Alors, je vous propose de passer maintenant d'aller à la rencontre des personnages. D'aller à la rencontre des personnages, donc avec d'autres noms propres, les leurs. Et alors là, il y a une caractéristique qui se retrouve dans vos deux romans. Celui-ci est donc un petit peu à part, La Grande Villa. C'est que la plupart des noms sont modifiés, ont été transformés. Par exemple, La Vieille, Dilino, Rimbaud, La Caboche, c'était pas leur vrai nom au départ. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez joué avec eux comme ça, les rebaptiser quasiment tous ?
J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être pour... Je crois que ça se fait au fur et à mesure, peut-être parce que, je ne sais pas en fait, je réponds, je réfléchis au fur et à mesure, mais je me dis que c'est peut-être en écrivant, au fur et à mesure que j'écris, je les rencontre, ces personnages, je les connais de plus en plus, parce qu'au début, en fait, c'est comme le lecteur, je ne les connais pas en fait, c'est vraiment, je pars avec un personnage, et je ne sais pas qui il est, je ne suis pas du genre à faire des fiches de personnages, à me dire, tiens, il est brun, il a des lunettes, il chose du 42, ça c'est quelque chose qui m'est complètement étranger, ouais, c'est... Donc peut-être qu'au fur et à mesure que j'écris, je les connais un peu plus et que je ne sais pas, j'invente, mais peut-être que ce qu'ils me deviennent familiers et que... Et que je les appelle autrement et que...
Oui, c'est une familiarité, ce sont des surnoms, des caractéristiques physiques, pour La Vieille par exemple.
Oui, c'est ça,
elle a de plus en plus ressemblé
à une vieille. Alors qu'elle est toute jeune et il lui arrive tellement de malheur qu'elle perd plein de facultés et notamment la tête. Et on l'appelle La Vieille et c'est vrai que pour moi c'est tellement parlant en fait. Je pense que il y a aussi ça, c'est que les surnoms, la tante dans La Géante, c'est pas ma tante parce qu'il y a aucun lien familial, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est la tante, c'est une personne qui prend en charge cette petite fille de 7 ans quand elle arrive et c'est sa couverture de survie, et la tante du coup, et je crois que je suis sûre, je lui mets une majuscule, ça devient quelqu'un en fait. Ça
devient, mais elle n'a pas de nom, c'est la tante.
Elle, je sais pas comment elle s'appelle, c'est que la tante, et je pense que ça ne m'intéresse pas de savoir son vrai prénom. Parce que c'est dans cette histoire, en tout cas à ce moment-là de sa vie, elle ne peut être que la tante. Son histoire d'avant, avant qu'elle soit la tante, je ne la connais pas en fait.
Et elle a rebaptisé Noël. Et on ne sait pas comment Noël s'appelait avant.
Non plus.
Non plus.
Non.
Voilà.
Et elle l'a baptisé avec un seul L.
Avec un seul L. Parce que c'était...
Parce que en fait, elle l'a baptisé. Je ne sais pas si je raconte tout. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. On ne sait jamais trop jusqu'où on va dans les. Mais tout simplement, c'est qu'elle.
Sans spoiler.
Oui, voilà. Elle ne savait pas. C'est une personne qui n'avait pas d'éducation, qui n'était pas allée à l'école, et le jour où elle l'a enregistré à la mairie, c'était Noël avec un seul L parce que c'était Noël. Et puis c'est pas important d'avoir deux L ou un seul. En fait. L'important, c'était cet acte-là.
Alors il y a un point qui les relie, ces personnages, qui les relie, si j'ose dire, parce que c'est leur grande solitude. Et sont des personnages qui naviguent de solitude en solitude, alors ce qui est notre lot intrinsèque à tous, me direz-vous, mais voilà, c'est quelque chose de leur ADN, ce retranchement dans lequel ils vivent. Et on voit ça pour Maruska, pour Adamko dans Le Silence, on voit ça pour Maxime, pour Noël aussi, pour les personnages dans La Géante. Et puis, dans La Grande Villa, on voit ça aussi pour l'autrice, qui a besoin de cette solitude pour essayer de retrouver son écriture.
Mais comme vous disiez, c'est intrinsèque, on est tous seuls, seuls au monde, plus ou moins. Et c'est vrai que chaque personnage, je pense, après coup en tout cas, est en quête de quelque chose. En quête de... Je suis en train de revisiter en fait leur histoire là, en même temps que je vous parle. Ils sont en quête de leur histoire, en fait. Dans le premier, dans La Géante aussi, Noël, pas tous, mais... je dirais que, je crois que ça me... Je sais pas, ça dit de moi, certainement, de cette solitude de l'écriture, cette solitude des combats qu'on mène tous. On est entouré, mais on est... On est seul quand on naît, on est seul quand on meurt, on est seul avec notre bâton quand on marche, même si on est... je dis quand on marche, parce que je pense à La Géante, donc qui se passe en montagne. Même quand on marche en montagne, si on part en randonnée avec un groupe de 10, on est seul sur ces cailloux-là. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je ressens très, très fort. Donc voilà, ça n'empêche pas la vie sociale et nécessaire et ô combien importante et joyeuse, mais toujours, je pense, je reviens à l'intérieur et à ce qui nous, je sais pas, à cette quête de, je sais pas, je dirais de sens, de qu'est-ce qu'on fait là en fait. Alors chaque personnage va aller chercher une réponse. Dans un passé qu'il ne connaît pas toujours. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mon écriture. C'est cette quête des origines, alors des origines proches ou lointaines, ou en tout cas inconnues. Donc face à ça, on est vraiment très seul. Donc l'écriture, pour moi, c'est sans doute l'expression qui est la mienne pour remonter ce chemin, pour explorer, pour essayer d'éclairer quelque chose, de peut-être le comprendre même, mais ça c'est beaucoup demandé. Mais en tout cas, voilà, essayer de mettre une lumière sur ces chemins qui sont dans l'ombre.
Alors cette quête des origines, nous on va les accompagner dans cette quête et on va soulever des pans de leur histoire, mais eux ne vont pas forcément les trouver. Alors je ne sais pas si on peut attribuer à cette solitude le silence et les non-dits qui hantent chacun de ces personnages dans vos livres, mais ce sont des taiseux et leur silence a de très lourdes conséquences, quand même.
Oui, ça c'est le titre du premier, en fait, Le silence ne sera qu'un souvenir, ça résume ça, enfin, pour moi, c'est le silence ne sera plus qu'un mauvais souvenir. À partir du moment où on leur a brisé ce silence, où enfin on aura levé le couvercle et on aura éclairé une vérité qui est enfouie de la veille ou de siècles précédents, peut-être. Donc peut-être que l'écriture Je vais forcer les taiseux à arrêter de se taire, en fait. Parce que sans doute que personnellement, j'ai besoin d'éclairage, je me dis que c'est... On a besoin de... Ouais, je vais mettre des couvercles sur les... Alors, sans parler de secrets, forcément, il y a les secrets qui sont... Il y a forcément du secret, mais sans aller même jusque-là, c'est juste des petits non-dits qui peuvent devenir des très grands et qui nous encombrent, en fait. Alors que si, tout d'un coup, on dit « Ah, j'aimerais bien dire ça », enfin, ou même sans le formuler, mais on se permet de dire des choses, ça peut apporter une légèreté. Ça peut surtout apporter un soulagement à soi-même et aux autres. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qui, pour moi, est redondant. qu'on retrouve et... Voilà, je ne sais pas si j'arriverai à le tarir, mais je ne suis pas sûre.
Alors, j'aimerais bien qu'on s'arrête un moment sur la structure du texte. Et la progression du récit, parce qu'en effet, vos textes sont très structurés, je trouve, et laissent les éléments se dévoiler peu à peu. Alors, dans le silence, après que le cadre ait été posé par Miklouch au début, il y a trois parties de taille inégale d'ailleurs, et en particulier dans La Géante, je trouve la structure tout à fait intéressante. On a tout d'abord une ouverture, je ne dirais pas une introduction, une ouverture qui nous laisse plein de questions dans la tête. Et puis, cette partie qui correspond à l'ascension de la montagne, qui sont titrées à chaque fois, qui sont introduites par un court texte. Et puis, ensuite, non pas non plus un épilogue ni une conclusion, mais l'acmé de tout ça. Voilà, qui nous laisse un peu suffocant. Alors, bon, déjà, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette construction-là? Puis après, j'aurai une autre question sur ces sept étapes.
Mais cette construction, c'était un casse-tête. C'est un casse-tête parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais je ne me dis pas au début, tiens, je vais faire sept chapitres et puis ça sera sept étapes de l'ascension de la montagne. Je ne le sais pas, parce que quand je commence le livre, je ne sais pas que je vais la grimper, cette montagne. Je sais que cette montagne, elle est là, parce qu'elle s'impose. Je sais que le décor s'impose par une image. Souvent, les romans commencent... Alors, pas toujours. Il n'y a pas de règles, parce que je m'en rends compte dans l'écriture aujourd'hui. Mais ceux-là, en tout cas, sont partis d'une image qui impose un décor. La Géante, c'était une femme dans une maison qui était sombre, elle est dans un fauteuil, comme ça, avec un grand manteau, il fait noir, il fait froid, ce manteau il est trop grand pour elle, elle est engoncée, je zoome encore, comme avec le petit bonhomme là sur les bords du Danube, et elle, je vois qu'elle a un manteau trop grand, les manches lui arrivent là, elle a de la terre plein les ongles, elle a les mains rouges, les doigts rougis, je devine ça, et derrière, elle est dans un fauteuil, que j'ai pas écrit d'ailleurs, mais que je vois très bien en rotin. Et face à elle est face à une fenêtre. Et là, il y a la lune qui éclaire et qui éclaire le paysage derrière. Et c'est une montagne. Et c'est comme ça que ça part, que part le livre. C'est le décor, il est là et c'est pas négociable. C'est je fais avec. Donc la montagne devient la géante. Je pense qu'elle devient la géante très tôt. Mais je ne sais pas pourquoi je l'appelle la géante. Et c'est pour expliquer la structure, en fait, c'est que je me souviens avoir nommé mon fichier la géante vraiment très tôt. Et c'est seulement peut-être au bout d'un an d'écriture que je sais pourquoi ça s'appelle la géante. Parce que le personnage, Noël, c'est elle qui la nomme la géante. Mais au début de l'histoire, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas cet élément-là. Et je donne cet exemple parce que c'est pour expliquer que j'écris, j'avance dans l'écriture, et c'est au fur et à mesure que des éléments... je sais pas comment expliquer ça. Des éléments arrivent qui vont me faire structurer l'histoire, en fait. En fait, c'est comme... prenons l'image de cette montagne, je grimpe. En fait, cette histoire, c'est donc une ascension. On part avec ses chaussures de rando et on va au sommet. En gros, si vous ne l'avez pas lu, vous allez... voilà, on monte et on arrive en haut. Ce que je ne sais pas quand je commence. Mais donc, ça commence par cette marche. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Je monte et y a un élément sur mon chemin nouveau. Je donne un exemple concret. par exemple, à la fin du roman, La Géante, ou presque à la fin, un des personnages, en tout cas, a quelque chose dans la main qui est un objet qui est important. Je ne le dis pas pour ceux qui n'auraient pas lu. Sauf que cet objet, comment il est arrivé, en fait ? Elle l'a dans sa main, elle arrive dans une cabane, on va dire, et cet objet est important. Sauf que quand j'ai commencé l'histoire, il n'y avait pas cet objet. Je ne savais pas, parce que ça arrive seulement dans l'histoire à la fin. Donc, pour écrire cet objet, qu'est-ce que je fais ? Je vais utiliser une image, mais je redescends la montagne. C'est-à-dire que je reprends mon livre, je redescends, je remonte mon livre jusqu'au début. Et cet objet, il faut que je le mette quelque part, donc je vais le mettre dans un sac, tout simplement. Il faut que je le refasse monter. Donc je redescends la montagne, je reprends et je refais l'ascension, c'est-à-dire je relis mon histoire. Et le sac, si vous le lisez, vous le trouverez à, je pense, 3 étapes peut-être de mémoire pour que ce soit, pour que ça tienne, en fait. Et toute la géante, elle est construite comme ça. C'est tout d'un coup, ce sont comme des indices, en fait, sur un chemin. Mais sauf que les indices, ils n'arrivent pas, ils ne sont pas tous là au début, parce que je ne connais pas l'histoire. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, il y a des indices qui apparaissent. Et je redescends pour les remettre, en fait. Parce que je ne les avais pas au début, donc je reconstruis comme ça. C'est comme un tricot, un petit peu. Comme je ne sais pas, si vous tricotez, puis tout d'un coup, vous vous dites... on redétricote et on recommence. Donc on redétricote pas tout, mais j'ai beaucoup descendu la montagne et remonté.
Et alors moi, c'est cette partie de l'ascension. Moi, je les ai vues comme 7 stations, et ça m'a fait penser au chemin de croix du Christ. Ah. Mais comme les 12 lacets pour arriver au village, je me suis dit c'est...
C'est les 12 apôtres, c'est vrai ?
Non, même pas. Mais que c'était une sorte de chemin de croix, donc voilà, c'est un pèlerinage, un rituel d'accomplissement, quelque chose comme ça. Bon, mais je me suis peut-être complètement fourvoyée.
Non, pas du tout, mais c'est vrai que le chiffre 7 déjà, et il revient plusieurs fois, il y a une échelle à un moment donné, je suis à la fin... L'échelle des... comment ça s'appelle ? Ça fait un moment que je l'ai écrit. Le dernier palier où il y a 7 marches. C'est dans la pierre, en fait. Et c'est difficile, c'est ardu. C'est vrai que c'est un chiffre qui revient. C'est vrai qu'on pourrait voir comme 7 stations.
L'échelle des 7.
L'échelle des 7.
Qui est au chapitre 6.
Ça, c'est venu à la fin, ces 7 chapitres, en fait. Enfin, qui se sont dessinés tout seuls, encore une fois. Et j'ai eu besoin de les structurer. Et en fait, ça s'est structuré dans ma tête comme quand on marche en montagne, vous savez, ces petites pancartes jaunes qui donnent le lac vert, l'échelle des 7. C'était pas écrit ça, mais... Donc c'est un petit peu ça, c'est à chaque palier, en effet, il y a un indice dans ce petit texte d'ouverture qui est pour moi une petite, petite envolée poétique que j'ai pris. J'ai adoré écrire ces textes-là. Ah oui. Vraiment, c'était un bonheur. Et ils sont venus, c'était comme une évidence, en fait. Et ils ont balisé chaque étape de l'ascension, en fait.
Non, je voudrais montrer, peut-être, ce sont des... Voilà, ce sont des... Chaque fois, on a un numéro de chapitre, le nom du palier, et puis un court texte qui, en italique. Ouais.
Qui dans introduit... C'est ça. Et qui a un petit... Dans chacun, il y a un petit indice pour la suite.
Mais il y a plein d'indices dans plein d'endroits. Et justement, moi, j'ai été assez impressionnée par la façon subtile que vous avez de les semer, ces indices, de distiller les informations marquantes qui vont révéler un point essentiel, l'air de rien. Et je tiens beaucoup à ce l'air de rien parce que, pour moi, c'est une langue qui ne fait pas d'esbrouf. Et c'est très positif quand je dis ça. Je trouve qu'il y a une forme d'humilité dans votre écriture et d'efficacité, et justement que ce pas d'esbrouf, c'est ça qui est beau, cette simplicité. Alors j'ai envie de vous demander comment vous la travaillez, cette langue-là. Elle est très très poétique.
J'essaie de répondre, mais j'allais dire quelque chose, mais c'est trop prétentieux de dire ça. Mais j'espère que vous allez comprendre. C'est je ne la travaille pas dans le sens où, à partir du moment où elle est la personne qui, à chaque fois, c'est un narrateur en fait. C'est pas un narrateur à la tour, c'est pas un livre, un roman à la troisième personne. C'est pas l'auteur, c'est pas un narrateur extérieur qui raconte, c'est incarné par un personnage, donc Noël dans La Géante et le vieux Miclouche. Et je pense que dans ces deux livres, à partir du moment où cette voix, elle est juste, c'est-à-dire que le Miclouche, quand il parle, c'est en ça que c'est prétentieux, mais je suis Miclouche, en fait. Noël, c'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Noël, c'est une femme, on ne sait pas trop quel âge elle a, mais elle a un peu des allures, elle est rude, elle est dans la montagne, et elle a sa blouse. Et à partir du moment où j'ai mis la blouse de Noël sur mes épaules, je deviens Noël. Et du coup, ça sonne juste pour moi.
Nous, on les voit, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, mais nous, on les voit très, très bien.
Ouais. Et du coup, j'ai vraiment ce souvenir dans l'écriture, et c'est un vrai bonheur, en fait. C'est que leur langue, pour moi en tout cas, je sais pas si c'est le cas pour le lecteur, mais elle sonne tellement juste que je sais pas si c'est compréhensible de dire ça, mais c'est peut-être ça qui fait poésie, en fait. C'est qu'ils n'essayent pas de faire des sbrouffes. En fait, ils sont eux-mêmes. Le vieux Miclouche, avec son langage un petit peu, des fois, il est un peu cavalier, il est un peu. Il met pas de gants pour parler, il y va, quoi. Noël, pareil, mais d'une autre manière. C'est un paysage rude, un personnage rude aussi. Mais et puis Noël, par exemple, elle est la poésie fait partie de sa vie sans qu'elle s'en rende compte, en fait. Elle est tout simplement avec sa, rien que sa blouse, c'est de la poésie. C'est sa blouse en nylon, sa façon de faire des fagots, de regarder la bourrache, sa façon d'être. De vivre la montagne, en fait, de marcher sur les cailloux, ce sont des choses simples, en fait. Et elle vit ces choses simples, elle les vit de l'intérieur, elle les vit normalement. Donc, comme vous dites, ça ne fait pas d'esbrouf et ça dit les choses sans forcément les enrober de plein de grandes phrases. Je sais pas, je pense, j'ai une image qui me vient, je pense à la géante, au petit duc, cet oiseau qui chante. Et le petit duc, c'est juste comme une flûte, toutes les trois secondes. Et pour moi, dire juste c'est une flûte toutes les trois secondes, ça suffit en fait. Je pense que on l'entend. Ça fait. C'est ça. Et alors, on pourrait l'écrire en 10 pages, on pourrait l'écrire en 3 lignes, on pourrait essayer de faire des belles phrases comme font souvent. Ce matin, ils ne l'ont pas fait, mais à l'école, souvent, quand on est à l'école, on essaye de faire des belles phrases parce qu'il faut écrire bien. Et écrire bien, ça veut dire mettre plein d'adjectifs et tout ça.
Et quand on voit l'effort tout de suite,
c'est. Et voilà, on sent l'effort, gratte, on cherche, on sent l'adjectif qu'on cherche. Oui. Mais la flûte toutes les 3 secondes, voilà, pour moi, c'est on l'entend en fait.
Et, je pense et ça, que, le chant d'oiseaux, les fleurs, tout ce langage des plantes et tout ce savoir des plantes qu'on trouve dans la géante, tout ce savoir de la musique, de la sculpture du bois, dans le silence, etc. Tout ça, ça participe de la transmission et la langue aussi, la langue rome. Il y a pas mal de mots en romani dans le roman. Est-ce que c'était important pour vous de glisser ça? C'est une façon de pas oublier, de rester fidèle aux origines, justement.
Oui, oui. Puis c'est là encore, c'est un souci de justesse. Et quand je dis justesse, c'est justesse par rapport à l'histoire, ce que je disais au début, mais c'est la justesse de la langue en fait, comme la flûte, comme le petit duc. S'il y a un mot romani à un moment donné, même la musique de la langue, elle participe de cette poésie. La musicalité, la musique des mots, pour moi, est importante et elle est poétique déjà. Les plantes, c'est juste juste une porte grande ouverte sur la poésie. Il y a tellement de poésie dans les noms, dans les noms de plantes. La poésie ne se trouve pas non plus que dans les fleurs et les petits oiseaux. Enfin, c'est aussi ça. On peut la mettre dans un caniveau et ça sera aussi de la poésie parce que dans le caniveau, je sais rien, on va mettre un petit bout de plastique et on va tous le voir le petit bout de plastique parce que ça sera un petit bout de rubalise qui a été perdu et que il est tout mouillé parce qu'il a plu et tout d'un coup on voit une image en fait et peut-être que c'est cette image qui fait poésie.
La poésie, ça peut être aussi ce bon sens ancestral des gens des campagnes, des montagnes. Par exemple, ça peut être la tante qui dit « mieux vaut apprendre à danser sous la pluie qu'attendre que passe l'orage ». Par exemple, ça peut être de la poésie.
C'est vrai.
Moi j'aime beaucoup ce genre de phrase-là. Je voudrais vous proposer d'entendre un tout petit extrait de chacun de ces 3 livres et qui pourront peut-être donner l'occasion de parler d'un autre angle de ces livres. Et par exemple, l'humour. Moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'humour glissé dans la langue. Ce sont des livres graves. Et malgré tout, il y a plein de petites touches très tendres, humoristiques. Et par exemple, dans « Le silence ne sera qu'un souvenir », voilà, ce petit passage où Loupko, qui est un gadget, rencontre Miklouch, qui lui est un tzigane. Et Miklouch parle de cette rencontre. Voilà. Ce sont des tout petits passages.
Il me parlait normalement, je veux dire sans ces efforts d'articulation que fournissent parfois certains gadgets qui, quand ils n'aboient pas comme des chiens, croient nécessaire de s'adresser à nous comme à des arriérés ou des étrangers. On dirait qu'ils s'entêtent à ignorer que nous partageons le même pays et du même coup ne soupçonnent pas que, pour une fois, peut-être le seul certes, nous avons bien souvent un avantage sur eux qui s'appelle le bilinguisme. Il est vrai que dans certaines situations, ne pas comprendre peut servir, et on ne s'est jamais privé de mettre cette corde à notre arc en cas de besoin. Avec lui, l'idée de l'entourloupe ne m'a toutefois pas traversé l'esprit.
Merci. Voilà, moi je trouve que ce Miklouch, il a il comprend beaucoup de choses, il voit beaucoup de choses, et il a une certaine dérision sur, oui. Sur, sur le monde qui l'entoure et sur les... sur ce qu'ils ont, à, enfin, sur ce que ce peuple rom a subi.
Oui, il est il a, oui, il y a une dérision. Il est dans ce peuple tzigane. Alors peut-être que c'est parce qu'il est, comme vous dites, c'est une voie d'outre-tombe. Il a ce recul. Il est très vieux, en fait, tellement vieux qu'il est mort. Mais du coup, il est. Ouais, je pense que c'est ce recul, c'est une forme. Il a une forme de, enfin pas une, une forme de sagesse, on va dire, un regard sans surplomb aucun sur lui-même et sur voilà. Il nous permet de regarder et c'est pas blanc et noir, c'est pas noir et blanc. C'est voilà, il soupèse les choses et ouais, il m'a aidé à regarder les choses différemment.
Alors un petit passage de la géante pour parler d'amour.
On ne peut pas ne pas parler d'amour. Et il y a des histoires d'amour absolument magnifiques dans chacun de ces deux romans.
Et voilà, ce passage parle de la découverte du sentiment amoureux de Noël. Noël qui a vécu dans son petit village, qui n'a jamais rien vu de la vie, et qui découvre le sentiment amoureux à travers les lettres de Carmen.
Je ne sais pas le cœur qui s'affole quand il espère, ou combien le désespoir le resserre. Je n'ai jamais perdu l'appétit à cause de la joie ou de la tristesse. Je mange parce que la pendule dit que c'est l'heure. J'obéis à des aiguilles qui me rappellent le coucher et au jour qui, par la fenêtre, par la fente des volets, me somme de me lever. Quand mes jambes flageolent, c'est à cause des kilomètres et de la fatigue, mais jamais elles n'ont tremblé d'impatience ou de plaisir. Elles ne savent pas ce qu'est courir vers le bonheur, elles ignorent même ce qu'est l'attendre. Ce sont les lettres, soir après soir, qui m'ont appris la voix qui tremble.
Merci. Je garde le dernier pour tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait parler un tout petit instant des exergues de vos livres? Pour celui-ci, Magda Szabó, je ne suis pas sûre de bien le prononcer.
Szabó.
Voilà, qui est une autrice roumaine.
Hongroise,
pardon. Ouais. Qu'on connaît surtout pour un roman qui s'appelle La Porte.
Ouais. Hein,
c'est bien ça.
Ouais.
Pour celui-ci, une exergue, c'est de Rilke, lettre à un jeune poète. C'est la sixième lettre où il fait... j'allais dire l'apologie, l'éloge, où il loue, il vante les bienfaits de la solitude, justement,
comme par
dont
hasard.
On parlait tout à l'heure, voilà, comme par hasard. Et enfin, un auteur islandais, John Kalman Stephenson, La tristesse des anges. Mmh. Vous pouvez nous dire
quelques mots sur chaque
de ces choix? On les comprend hein, quand on a vu.
Oui, c'est ça, je pense qu'ils sont venus éclairer, ils sont venus après.
Ils sont venus après.
Oui, après l'écriture. Magda Szabó, c'est une auteure hongroise qui a été importante pour moi dans La Porte. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre que je vous conseille. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais je l'ai beaucoup offert ce livre, qui est c'est un univers en fait qui m'a beaucoup parlé. Et, c'est une auteure hongroise qui a été censurée sous le communisme et qui a été traduite ensuite aux éditions Viviane Ami, qui est décédée maintenant. En fait, c'était un. Vous avez vu ce roman-là. C'était dans. Je l'ai dit, ça se passe en Slovaquie. Il y a la chute du mur. Magda Szabó, c'est une auteure hongroise. J'ai eu toute une période de lecture de l'Est, de lecture de romans russes, de romans hongrois, et tout simplement parce que quand j'étais étudiante, j'ai eu la chance d'aller en. Même avant, j'oublie ça, à 15 ans, je suis allée en URSS, comme on l'appelait à l'époque. Ce qui m'a beaucoup marquée, je m'en suis rendu compte qu'après, en écrivant, parce que vous voyez, le premier roman qui vient, c'est un univers qui est revenu, en fait. Cette découverte du monde soviétique quand j'avais 15 ans. Après, j'ai eu la chance d'aller en Slovaquie, à Prague, en République, enfin en Tchécoslovaquie à l'époque, avant la chute du mur. Et puis j'ai gardé des contacts et j'ai des amis dans les pays de l'Est, donc après la chute du mur. Donc ça a été une découverte dont voilà, j'avais 15 ans, 18 ans, 20 ans, et c'est un univers qui m'a vraiment habité. Donc voilà. Et je ne sais plus ce qu'elle dit Magda Sabo dans cette exergue. J'ai oublié. Elle parle de vérité, je crois.
De ceux qui...
Vous ne savez que des choses superficielles, insignifiantes, qui peuvent être vraies, mais pas comme vous le croyez. Les témoins qui pourraient vous dire la vérité se taisent et ne sont plus en vie.
Voilà. Voilà. Bon, bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Hein, je crois qu'elle résumait parfaitement ce poids du silence.
C'est raccord.
Voilà. C'est raccord. Le deuxième, c'était...
C'est Rilke.
C'est Rilke, que j'aime les lettres, un jeune poète.
Donc, qui exalte la solitude pour pouvoir créer. On parlait de solitude tout à l'heure. Et justement, comment... quand on est en panne d'écriture,
Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait pour que ça revienne ?
Ah, dites-moi. Dites-le-moi. Là, il n'y a pas de recette non plus, parce que la panne d'écriture, elle est... Je ne sais pas si c'est la panne ou ça peut être plein de choses. Ça peut être du vide, ça peut être... j'ai plus rien à dire, tout simplement. Ça, c'est terrible, mais on se dit, bon, c'est pas grave, ça reviendra. Ou ça revient pas, ou ça revient plus tard, trop tard, ou... la panne ou la résistance, pour moi, c'est un mot qui vient souvent. C'est un roman qui résiste, ce que je traverse là, et qui est très douloureux parce que si ça résiste, c'est qu'il faut qu'on y aille, en fait. Enfin, c'est ce que je me dis. C'est il y a quelque chose qui empêche, quelque chose qui accroche, quelque chose qui y a un caillou là devant. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on le contourne, soit on passe par-dessus, comme la montagne, soit on fait demi-tour. Et faire demi-tour, c'est dur. Enfin, moi, j'ai du mal, mais le caillou, il est dur. Donc voilà, ça, c'est une autre forme de panne.
Et d'ailleurs, au moment de cette résidence, j'ai vu quelque part, ou entendu, je ne sais plus, vous aviez terminé un second roman qui ne vous donnait pas satisfaction.
Ça, c'est La Grande Villa, en fait, ça m'a sauvée. C'est un livre, un texte très court qui m'a sauvée, dans le sens où, en effet, après le premier roman, il y a la peur tout d'un coup du deuxième roman, qu'on ne connaît pas, parce que le premier, on est tellement naïf, c'est l'inconnu, on y va.
Tout le monde vous le dit, hein.
Ah, oui,
ça, le deuxième roman, ça va être...
Ouais, c'est vrai. Hein, le premier, on ne sait tellement pas si on sera publié déjà, donc il n'y a aucune pression. On y va et puis on verra bien. C'est une naïveté, en fait, qui est perdu à jamais, parce qu'une fois qu'il est publié, on ne la retrouve plus. Le deuxième, alors on est attendu, entre guillemets, parce que voilà, à moins d'avoir le prix Goncourt pour le premier, où là, j'imagine même pas ce que ça peut être le deuxième. Mais voilà, il y a des gens qui ont aimé, des lecteurs, l'éditeur, des libraires, donc, puis soi-même, en fait, on se dit, mais... moi, je me souviens, le deuxième, c'était, je veux au moins faire aussi... retrouver le même sentiment de la même force, en fait, d'écriture, enfin, qui m'a animée pendant l'écriture. Donc, on se met soi-même la pression.
Enfin, moi, et ça a été finalement celui-ci ou complètement un autre ?
Non. Donc, j'ai écrit un roman qui est dans un tiroir et qui restera, parce qu'il n'a plus de raison d'être. Et je suis arrivée en résidence, donc, à Marseille, en effet, avec ce roman que j'avais envoyé à mon éditeur. Pas contente, mais c'était vraiment... je m'en débarrasse de ce roman. Et le jour où j'arrive en résidence dans cette ville-là, mon éditrice m'appelle. Mais vraiment, je venais d'arriver depuis une heure et j'ai la mauvaise idée de décrocher. Et là, on en parle pendant une heure et demie alors que je venais d'arriver. Et c'était... Et tout ce qu'elle disait, je le savais. En fait, c'était pas une surprise. Elle disait juste que... Voilà, elle me confortait dans mon sentiment. Donc, je suis arrivée dans cette résidence avec ce sentiment de ne plus réussir à écrire. Est-ce que je ressentais dans l'écriture de ce deuxième texte que c'était poussif, je forçais, mais je n'étais pas dans la voie juste de Noël ou du Miklouch. Je ne trouvais pas cette voie-là. Mais je l'écris quand même. Et puis, donc, je suis arrivée avec ce sentiment de vide, de perte. en parallèle d'une autre perte qui était celle de mon père. Et les deux se sont faits en même temps. J'ai perdu, accompagné mon père dans la fin de sa vie, en même temps que je terminais ce roman. Donc c'était vraiment la, un peu la... j'arrivais dans cette, l'image que j'ai dans cette maison avec un... avec deux sacs, hein, deux sacs de vide en fait. La perte, avec mon père était décédé plusieurs mois avant, mais tout d'un coup, la conscience que c'était pour toujours, ce qu'on ne réalise pas tout de suite forcément, et la conscience de ne plus réussir à écrire. Donc cette résidence et ce texte a vraiment cristallisé ça, c'est la perte. La perte de quelqu'un qui nous est cher et la perte de l'acte de création aussi. Et comme par hasard, les choses font bien les choses, les deux se sont... Enfin, l'écriture, la création nous mènent vers des... éclairent des choses parfois et les deux se sont rencontrés. Et ça a été un... C'est devenu le deuxième roman. Voilà. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un récit? Voilà, ça n'a rien à voir avec les autres. Mais ça, c'est le deuxième roman qui a pris la place de celui qui est dans le tiroir et qui m'a sauvée du deuxième roman, en fait. Donc sans lui, peut-être que je n'aurais pas continué, en fait. Je ne sais rien. On ne sait jamais. Mais...
Bah, on peut en entendre un petit passage et qui colle parfaitement bien avec ce que vous venez de dire.
C'est vrai.
Là, et j'ai oublié.
On écrit avec le désespoir et la tristesse. Avec la colère et la joie, avec l'amour aussi. Oui, avec tout ça qui fournit de l'encre, ou si on n'écrit pas tout de suite avec, on en remplit des citernes pour plus tard. Depuis qu'on est petit, on fait ça. On a tous un stock à portée de main. De cris de joie, de maux de ventre, de roses aux joues, de jambes qui cotonnent, qu'on écrive ou qu'on n'écrive pas d'ailleurs. Toujours un réservoir plein à ras-bord. Pour écrire, il faut marcher longtemps, creuser et descendre, et ramper, au risque de se cogner la tête, se briser le cou, se déboîter un genou. Il faut prendre la route avec son bâton ou sa pioche sans connaître la destination, sans savoir où la porte d'entrée, où la sonnette, ne pas savoir quand la lumière. Oui. Il faut descendre là où on n'est jamais allé. Parfois on hésite, on s'essouffle, on dit qu'on se fatigue, mais c'est peut-être simplement qu'on a peur. Du noir et du grand silence. Et de l'inconnu qui s'y cache. Oui, avec ce qu'on ne connaît pas, on écrit.
Merci. Avant, on va s'accorder un tout petit temps pour parler de vos autres activités, puis de vos projets, puis peut-être de quelques questions, si vous avez. Je voudrais quand même faire un petit clin d'œil, un double clin d'œil, dans La Géante. Mais je trouve que des clins d'œil, il y en a à plein d'endroits. Mais je voudrais bien savoir s'il était intentionnel, quand même, celui-ci. Bon, déjà, c'est le prénom de Rimbaud. Noël a rebaptisé son frère Rimbaud, je ne vous dirai pas comment il s'appelait avant, vous le verrez vous-même, mais elle l'a rebaptisé comme ça à la faveur du poème La Bohème qu'elle apprend à l'école. Donc déjà, je trouve que c'est un premier clin d'œil. Et pour moi, le deuxième clin d'œil, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Rimbaud, Baudelaire, et Baudelaire a écrit un poème qui s'appelle La Géante.
Oui.
Est-ce que c'était intentionnel ?
Non, parce que je ne connaissais pas ce poème et je l'ai découvert après.
Ah oui ?
Parce que quand on écrit un livre, quand on choisit le titre, ben on va regarder s'il existe. Parce que si déjà il y a La Géante, on se dit mince, ce qui aurait été dommage, parce qu'on a le titre. Quand le titre, ça. Enfin, des fois, il y a le titre, on l'a tout de suite, en fait. Et si on attend que la fin pour aller voir s'il existe, puis que là, on se rend compte qu'on ne peut pas le prendre parce qu'il existe déjà, c'est un peu dommage. Et c'est là que j'ai découvert le poème que je ne connaissais pas. Donc,
Moi non plus, je l'ai découvert à cette occasion.
Voilà, ça a permis ça.
Merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de peut-être de la revue Apulée ou peut-être des
des autres activités que vous menez en parallèle, des ateliers d'écriture, des ateliers multilangage, on va dire.
Au choix.
Au choix.
Bah, à Pulley, je vais pas en parler très longtemps.
C'est une revue annuelle. Hein.
C'est une revue annuelle. Alors, une revue, c'est épais comme ça, à l'image de l'œuvre de Hubert Haddad, qui est un auteur des éditions Zulma, qui a écrit beaucoup de romans, que vous connaissez peut-être, que je vous invite à découvrir, et qui est à l'initiative de cette revue. Donc, il y a une revue qui invite plein d'auteurs à écrire un texte libre sur un thème qui est donné, la guerre et la paix, par exemple. Des thèmes très, très larges, qui sont des textes de tout genre, poésie, nouvelles, de la photo, il y a plein de... C'est très, très riche.
Mais c'est du collectif.
C'est du collectif.
Rien à voir avec l'écriture d'un roman.
Oui, puis ce sont des textes courts. Donc, c'est un texte de commande, on va dire, entre guillemets. Ah oui. Même si, c'est juste un thème, un petit argumentaire de Hubert qui dit, ça va parler de ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Donc, ça fait du bien aussi.
Oui.
Ce sont des textes courts qui... qui nous emmène sur des chemins qu'on n'emprunterait pas tout seul, parce que du coup ça donne un élan et ça fait du bien aussi. pour la revue Apulée.
Et quand vous étiez en résidence à la Marelle,
à Marseille,
De façon concomitante ou juste avant, juste après, il y avait une résidence à Alger qui était organisée, c'est ça?
Oui.
Comment ça s'est articulé?
C'était la Marelle, c'est une association à Marseille qui, comme les Nouvelles Hybrides, accueille des auteurs en résidence et organise des rencontres, des événements littéraires, fait rayonner tout ce petit monde sur le territoire. Et cette année-là, ça fait donc un moment, c'était en 2014, je crois, 14 et 15, c'était un dispositif particulier qui proposait à un auteur de faire une résidence double en Algérie et à Marseille. Mm-hmm. Donc j'ai fait un mois à Alger et un mois à Marseille.
Il y avait un auteur algérien qui faisait la...
Non. Au début, ça s'était prévu. Il y avait eu, c'était quelque chose qui se construisait. Il devait y avoir un partenariat avec la compagnie de bateaux,
la Méridionale.
SNCM, ça existe?
Non,
ça
n'existe plus.
Ça n'existe plus.
C'est Corsica Ferries.
C'était l'année où la SNCM, je devais, ça c'était tellement romanesque, je devais partir de Marseille à Alger en bateau. Et on pouvait inventer ce qu'on voulait. Je pouvais faire trois allers-retours et écrire dans la cabine. Sauf que c'était le début de la fin de la SNCM qui était en grève et tout ça. Et finalement, je suis allée en Alger en avion.
D'accord.
Donc, c'était beaucoup moins romanesque. Mais ça a été quand même des très belles rencontres avec, sur place, des rencontres avec des femmes algériennes où j'avais proposé, plutôt que d'aller là-bas sans connaître personne, plutôt de créer un groupe pour écrire ensemble. Donc ça a été une forme d'atelier d'écriture, de partage, dont je garde des très, très beaux souvenirs. Et ce qui conduit à parler peut-être en effet des ateliers d'écriture que je conduis depuis que le premier roman a été publié. Parce que souvent, à partir du moment où vous êtes publié, des portes nouvelles s'ouvrent, comme les résidences d'écriture, puisque c'est un critère, il faut être publié pour y avoir accès. Et on vous sollicite parfois pour animer des ateliers d'écriture. Ce qui, au début, m'a paru un peu... très naïve, je ne m'y attendais pas. Et ça me posait question, parce que je me disais, mais ce n'est pas parce que j'écris que... qu'est-ce que je propose aux gens? Est-ce que je faire écrire les autres? Enfin, je ne sais pas, ça m'interrogeait beaucoup.
Donc est-ce qu'on se sent légitime tout de suite?
C'est ça. Et puis qui je suis pour proposer aux gens d'écrire et puis pour donner un avis? Est-ce que je dois donner un avis? Ça pose beaucoup de questions. Et donc j'ai pas accepté tout de suite. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Et un jour, au hasard d'une rencontre, une proposition qu'on m'a faite d'intervenir dans une clinique psychiatrique. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai eu envie, en fait, de franchir ce pas-là. Alors, ça m'a posé beaucoup de questions aussi, et j'étais dans mes petits souliers. Mais ça a été une expérience vraiment que j'ai beaucoup aimée, qui a été très riche. mais de partage, de, dans les deux sens, en fait. Parce que les ateliers nourrissent aussi, le, selon les, le, voilà, ce qui s'y passe. Et j'ai poursuivi les ateliers, donc j'en conduis dans, auprès de différents publics. Et c'est vrai que ce volet, voilà, en milieu hospitalier, en milieu pénitentiaire aussi, ce qui est arrivé plusieurs fois, mais surtout le milieu hospitalier et la psychiatrie, c'est vraiment un univers qui me... qui m'attire, qui me parle, parce que... parce qu'il se passe des choses importantes, en fait, avec ces personnes. Ce sont des personnes qu'on sent... Alors, ça dépend, hein, c'est pas forcément... Il y a différents degrés de maladie, de handicap, mais des gens qui sont en détresse, des gens qui sont... Ouais, qui sont perdus, qui, voilà, qui peuvent être tout simplement dépressifs, hein. C'est pas non plus être névrosé complètement et schizophrène, et voilà, c'est toutes sortes de troubles, et c'est donc proposer à ces gens-là un moyen d'expression, comme ça pourrait être la danse, ça peut être la sculpture, la peinture, là, voilà, ce que je sais faire, moi, c'est l'écriture, et voilà, donc c'est des moments de... alors je dirais pas thérapeutique forcément, parce que je suis pas thérapeute et je sais pas si l'écriture ou l'art peut l'être, probablement, mais en tout cas c'est un moment de création, et je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est que, et je me rends compte de plus en plus en travaillant avec ces gens là c'est que on est ensemble dans la création, en fait, et je crois que alors j'essaye de leur permettre ça, mais sans être forcément en établissement psychiatrique, comme ce matin avec les petits bûcherons, comme dit, comme dit Laurence, où on est ensemble dans la création, et moi ça me renvoie la balle aussi.
On change.
Complètement, et avec des personnes en plus qui sont, par exemple, j'ai conduit des ateliers avec des personnes qui ont subi des traumatismes crâniens, qui ont des soucis de mémoire, qui souvent n'ont pas de filtre, en fait, qui sont cash. Moi, ils me renvoient des choses qui me permettent à moi aussi d'y aller, en fait, de pas m'encombrer de fioritures, de belles phrases, de tout ça. On a quelque chose à dire, on le dit puis on l'écrit. Et ça, c'est voilà, il se passe des choses très très fortes. Et qui procure des moments de création, tout simplement, donc de plaisir et de partage, surtout.
Mmh. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le prochain livre, hein, qui va peut-être arriver, qui est en cours,
Ouais, les deux mots que je dirais, ça serait quoi? Ça serait... Ouais, je vais essayer de...
Quelle image? Voilà, puisque ça part d'une image. Quelle image?
C'est très dur parce que, comme je disais tout à l'heure, je vais répondre à la question. Je vais choisir deux mots et je vais dire, ça va m'aider. Je vais dire chant.
C'est H-A-N-T ?
Oui, pardon, chant. Le chant. Là, qui passe par donc la voix avec un X. Ouais. Le chant. Le chant est. Je vais peut-être oser, mais ça va être un peu banal, mais je vais dire silence. le chant qui va venir briser un silence.
Ok.
Il y a ça. Mais c'est un roman, comme je disais tout à l'heure, c'est l'autre mot qui me vient, c'est la résistance. C'est un roman qui me fait pleurer, qui peut me faire pleurer, peut me faire pleurer parce que je me cogne la tête contre un mur, en fait. Et à force, ça fait mal. Donc voilà, mais il n'y a pas que ça, il y a des moments de bonheur et des... Mais voilà, il n'est pas fini encore, il n'est pas fini.
Ok. On l'attend.
Oui, moi aussi.
On l'attend.
Moi aussi.
Voilà, je voudrais souligner une dernière fois le tour de force, à mon sens, le tour de force que c'est que d'allier un vrai suspense narratif et une très très grande poésie de la langue. Vous remerciez tous, et voilà, merci Laurence Villaine, et n'hésitez pas à dévorer ces livres.
Merci beaucoup pour cette lecture très précieuse et attentive. Merci.